Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce verset qui est le fil rouge de notre année. Sois une bénédiction. Ce matin, je voudrais vous lire Luc chapitre 11, les versets 26 à 38, mais je vais seulement vous lire quelques brides. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit : Mais sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit alors à l'ange : Mais comment cela peut-il se produire puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi et une puissance, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici d'ailleurs qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit : Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Et lorsque Marie a présenté Jésus au temple, Siméon, dans Luc, dit : Quant à toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Je vous invite à la prière. Seigneur, je te demande que ce matin, ce texte nous parle, à nous, chacun personnellement. Je prie pour que l'Esprit Saint se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. Que cet enseignement nous fasse aller de l'avant, nous fasse grandir avec toi. Je t'en prie en tout cas au nom du Christ. Amen. Afin de ne laisser aucun doute s'installer, je dirais que cette Marie-là, puisque l'Évangile nous en présente quatre ou cinq, cette Marie-là est bien la mère de Jésus. Et elle a donné naissance alors qu'elle était encore vierge. Parfois, on entend des personnes dire : Ah, on ne connaît pas grand-chose des protestants, sauf qu'ils ne croient pas en la virginité de Marie. Ça, franchement, il y a un mélange, ça n'a rien à voir. Si effectivement Dieu a sucré la terre et l'univers, ce n'était pas trop compliqué pour lui de permettre qu'une vierge puisse donner naissance. Et lorsque Marie dit : Je n'ai connu aucun homme, c'est un peu bizarre des fois parce qu'elle est fiancée avec Joseph, et qui dit fiancée, ça veut pratiquement dire déjà mariée. Mais le terme connaître ici, c'est un terme qui parle de la sexualité. Donc, comment puis-je être enceinte puisque je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec un homme ? C'est comme ça qu'il faut le traduire. Marie, comme toutes les générations d'hommes et de femmes avant elle, depuis Adam et Ève, elle était Marie. Comment dire, pécheresse, comme nous le sommes. Elle a hérité de l'ADN du péché qui passe d'une génération à l'autre. et pour tous les êtres humains. Donc Marie avait besoin, elle aussi, d'un sauveur, et elle avait besoin aussi, elle, du pardon des péchés. La dernière fois qu'on entend parler de Marie dans la Bible, c'est tout au début du livre des Actes des Apôtres, où elle était avec tout le monde dans la chambre haute, lorsque l'Esprit-Saint est venu. Et donc après, à partir de là, la Bible, les Écritures ne parlent plus d'elle. Certains disent ou pensent qu'elle est décédée à Éphèse, mais on n'en sait trop rien. Et je dirais aussi en préambule que Marie n'a jamais été comme Hénoc ou le prophète Élie, elle n'a pas été enlevée comme eux. Ce dogme, d'ailleurs, a été promulgué très tardivement, dans les années 1950. Donc, si Dieu avait voulu qu'il en soit ainsi, ça aurait été mis, en tout cas, dans les Écritures. Je ne sais pas si nos amis qui vénèrent ou qui prient Marie avaient besoin d'une figure féminine, mais il y a eu de la surenchère. Lorsque, je ne sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier voyage que nous avons fait en Israël, on nous a dit, là, sur la route, on a retrouvé une pierre sur laquelle Marie s'est assise lorsqu'elle a voyagé de Nazareth à Bethléem. Mais je vais être un peu franc, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles, quoi. Quand même... C'est de la surenchère stupide. Donc nous ne sommes pas allés voir en pèlerinage cette pierre où elle se serait assise parce qu'elle était fatiguée. Voilà. Donc les Écritures nous disent qu'il y a un seul médiateur, un seul Dieu et un seul intermédiaire ou médiateur entre Dieu et l'humanité ou les hommes, c'est Jésus-Christ. Voilà. Et la parole... de dire que nous met en tout cas en garde contre de faux évangiles. Donc je ferme la parenthèse en disant qu'on ne prie pas Marie, ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre, ni Saint Joseph, etc. Cela dit, nous ne pouvons pas occulter non plus le fait que Marie a été une réelle bénédiction pour Dieu, pour l'humanité et pour nous. Et je voudrais vous laisser quelques pistes de réflexion. Marie, une jeune fille, probablement d'une famille bien, on voit qu'elle a la foi en Dieu, qu'elle connaît les Écritures qui, à cette époque-là, étaient ce que l'on appelle l'Ancien ou le Premier Testament, qu'elle fréquentait probablement une synagogue, elle était fiancée, donc presque mariée, ou pratiquement mariée, à un homme qui s'appelle Joseph. Joseph, je ne vais pas redire ici l'excellent enseignement que nous avons reçu en début de mois par Denis de Rugeau, qui parle de Joseph comme un homme sensible, un homme bien, un homme à l'écoute de Dieu. Marie est effrayée par l'irruption de l'ange. Contrairement à ce que l'on voit au cinéma, souvent on nous présente l'ange comme quelqu'un avec de la lumière, avec une voix venue d'outre-ciel, mais l'ange, quand il se présente comme si c'était un homme. D'ailleurs, plus tard, dans le Nouveau Testament, on nous dit « Mais certains d'entre vous ont accueilli des anges sans le savoir. L'ange qui fait irruption dans sa maison alors qu'elle est seule lui indique qu'est-ce que le Seigneur attend d'elle. Le texte ne le dit pas, mais j'ai tendance à croire, j'ai tendance à penser, mais je ne l'affirme pas, mais j'ai tendance à penser que Marie était en train de prier et de dire au Seigneur, quand est-ce que tu vas faire venir le Messie tant attendu? Et qui sait si dans ce temps de prière, elle n'était pas en train de dire, si tu veux que ce soit moi qui le porte, te gêne pas, Seigneur. Je suis bien conscient que c'est un peu tordu, mon histoire. Mais quand même pas tant que ça. Quand on voit, quand on appréhende les Écritures et comment les choses se sont passées, un Moïse, s'il a été appelé par Dieu, il l'a été appelé, mais très longtemps avant que... avant tous les grands faits que l'on lui connaît. Il était tellement animé par la certitude que Dieu voulait rendre libre son peuple qu'il a assassiné un Égyptien et il l'a caché dans le sable, pensant que, des fois un peu comme moi, pensant que Dieu ne va pas assez vite, alors il faut lui donner un coup de main. Mais il avait déjà le Moïse, en son cœur, cette envie, cette prière, ce sentiment. Je vais dire un truc un peu bizarre, mais Moïse était enceinte du projet de libération de son peuple. Gédéon était en train de prier, il était camouflé dans une grotte en train de faire de battre son blé, quand un ange vient pour lui dire: salut, vaillant héros. Enfin, l'ange lui dit vaillant héros, mais vaillant héros, si seulement tu pouvais envoyer quelqu'un pour délivrer Israël des envahisseurs et de nos ennemis, je suis obligé de me camoufler. Et l'ange de lui dire va. Lui aussi, il avait ça dans le cœur. Déborah, la prophétesse, Paul, pour ne citer qu'eux. Marie avait-elle une espérance cachée, beaucoup trop folle pour la partager à quiconque, au risque qu'on lui rétorque que c'est stupide, qu'elle est orgueilleuse, et que c'est une idée de très mauvais goût. Pour reprendre donc l'exemple de Gédéon, c'est complètement dingue. Je trouve que Dieu, au travers de l'ange, vienne voir Gédéon pour lui dire « vaillant héros », alors que le mec, il se camoufle et qui se considère comme étant faisant partie de la plus petite tribu d'Israël, de la plus petite famille et du plus petit de la famille. Il avait un complexe d'infériorité complètement dingue. Et le Seigneur vient lui dire, vaillant héros. Attends, Seigneur, tu t'es pas trompé, là? Non, parce que Gédéon, il portait dans son cœur, dans son être, cette espérance de voir son peuple être libéré. Et quand le Seigneur lui dit, au travers de l'ange, mais maintenant tu y vas, et il a un peu la trouille, mais il y va quand même. Et il y va de nuit, mais il fait. Y compris contre son père. Je voudrais juste m'arrêter un moment pour vous dire et nous dire qu'il arrive que l'Esprit Saint nous inspire des prières pour que nous puissions nous-mêmes les réaliser ou être source de réalisation des prières que nous formulons à Dieu. Seigneur, je te prie, je te demande. Et le Seigneur de dire, ok, ça marche, vas-y. Alors qu'on s'attendait que ce soit quelqu'un d'autre, parce qu'on ne se trouvait pas capable. Il a mis en Moïse, il a mis dans des hommes et des femmes des projets tellement forts. J'entends encore un pasteur dire, c'est comme une cocotte minute, là, ça boue à l'intérieur. Il faut que ça puisse sortir en réalisation. Et de vous demander, quelles sont les prières? Quelles sont tes prières qui sont au fond de ton cœur et que tu voudrais voir Dieu réaliser par d'autres? Alors que ce matin, il te dit, je veux les réaliser, ok, mais par toi. Quels sont tes rêves? Quelles sont tes prières? Qui peuvent être non seulement entendues, mais exaucées de la part de Dieu, mais au travers de ta vie? C'est une vraie question. Je vais un peu plus loin. Marie, n'hésite pas à poser des questions à l'ange. À lui faire comprendre que son aspiration, si elle est légitime, elle est vraiment impossible. Mais alors vraiment. Écoute Seigneur, tu n'as pas tout à fait compris. Tu n'as pas compris que j'étais vierge et que je n'avais pas de relation sexuelle. Et je ne vois pas ce que tu ne comprends pas dans l'être humain pour dire que ce n'est pas comme ça que ça marche. Impossible! Comment veux-tu, Seigneur, que je devienne enceinte alors que je n'ai pas de relation sexuelle? Quand même, tu devrais le savoir. Son questionnement n'est pas une remise en cause de ce que le Seigneur lui demande et lui propose. C'est qu'elle veut comprendre, au moins en partie, comment ça peut se passer. Parce que là, pour l'instant, c'est de l'ordre de l'impossible. Notez que l'ange ne lui dit pas comment ça va se faire. Pas dans le détail. L'Esprit Saint va te couvrir de son onde. Oh ouais, mais alors ça se passe comment? Comment il va se manifester, hein? Comment je vais le savoir? Comment je vais le sentir? Seigneur ne donne pas de détails. Marie peut refuser. Marie peut refuser parce que le Seigneur n'oblige jamais personne à quoi que ce soit. Il propose. Il convie. Il nous laisse prendre la décision. Et Marie accepte le projet que le Seigneur a pour elle. Par amour pour lui, elle fait le choix de l'honorer. J'allais dire, elle fait le choix de devenir une partenaire de Dieu. Ok, Seigneur, tu as un projet, je veux bien venir avec toi pour être partenaire, associé à ton projet. Associé de Dieu dans le projet que tu as pour moi. L'ange répond, rien n'est impossible à Dieu. Mais alors, vraiment rien. Et le rien n'est impossible à Dieu est compliqué pour nous. Enfin, peut-être pas pour vous, mais pour moi, des fois, c'est compliqué, quoi. Tu dis rien, mais... Seigneur, c'est quand même pas si simple que ça. Et lui de dire, mais moi je te dis, rien n'est impossible à Dieu. Et pour la convaincre, parce qu'elle a quand même besoin, Marie, d'un petit truc qui permette qu'elle va croire, eh bien, l'ange lui dit, tu vois ta cousine, elle était tellement vieille que c'était même pas possible qu'elle enfante. Eh ben voilà que c'est la mère de Jean-Baptiste. Toute sa vie, cette femme a prié et demandé au Seigneur d'être enceinte, parce que c'était comme ça que ça se passait en ce temps-là. Il fallait être enceinte pour au moins pouvoir dire que le Seigneur m'honore. Mais là, le fait d'être stérile, c'était le rejet. Le rejet de la famille, le rejet du village, de la société. Tu es maudite de Dieu puisque tu n'enfantes pas, puisque tu es stérile. Et cette femme de bien, dont le mari était lévite et servait Dieu, eh ben, elle était en peine pendant des années et des années. Elle était devenue trop vieille, trop ridée. Le pot était cassé pour qu'elle ne puisse enfanter. Et le Seigneur lui dit, « Moi, je te dis, rien n'est impossible à Dieu, même ta vieille cousine qui ne pouvait plus enfanter, qui ne pouvait pas, ben, voilà qu'elle est enceinte. » Pris de croire que c'est pas une histoire. Ça s'appelle un récit. Ça s'appelle des expériences personnelles. C'est pas dans l'évangile pour que ça fasse bien, qu'il y a un éclat quelque part. Va voir ta cousine. Va vérifier que rien ne m'est impossible. Nous avons parfois le droit de demander au Seigneur de nous accorder des signes pour que nous soyons convaincus que c'est bien lui qui nous dit ou qui a mis le projet, son projet, dans nos cœurs et dans nos vies. Il y a un autre facteur que je voudrais soulever, c'est que Marie n'a pas dit « Ok, reste là un moment, je vais aller voir Joseph pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. » C'est quand même étonnant. T'es fiancé avec lui. Il était aussi concerné. Mais à ce moment-là, c'est comme si il n'y avait que... Ça se passait entre le Seigneur et Marie, entre Marie et le Seigneur. Là, Joseph n'est pas rentré en ligne de compte du tout. Elle n'a pas été lui demander son avis. Est-ce que, comme projet de vie, ça te convient ? Non, elle... Ok. Marie accepte, et c'est pas facile. Je ne sais pas si elle en est consciente à ce moment-là, peut-être pas. Mais Marie accepte les risques qui vont avec l'appel de Dieu. Le projet de Joseph, c'était de la répudier. Elle aurait été seule avec son gamin à élever. La risée de tout le monde. D'ailleurs, ils ont peut-être été un peu la risée, parce que les gens, ils savent compter. Hein. Comment que ça se fait que Jésus est né alors que vous n'étiez pas encore mariés ou seulement depuis quelques mois, hein. Ils ont dû se manier pour se marier, pour faire bonne figure, mais bon. Les gens ont dû dire, Joseph et Marie... Vous avez consommé votre sexualité avant le mariage. Là où nous cherchons, nous, souvent, l'approbation des hommes, Marie accepte le risque d'être répudiée par Joseph, d'être la honte de sa famille, d'être la risée du village, d'être rejetée. On peut dire que Marie a offert au Seigneur sa notoriété, le risque, elle a offert le risque de ne pas pouvoir se marier parce que c'était pas évident à ce que quelqu'un l'accepte déjà avec un gamin. Elle a offert son corps ainsi que son avenir. Alors c'est en même temps fraternel et brutal, mais sans équivoque. Est-ce que tu es prêt, toi, de vivre comme elle, le risque de ne pas être compris, d'être rejeté, Jusqu'où tu es prêt à servir Dieu? Comme elle, est-ce que tu es disposé à offrir ta vie, ton corps, ton être, ton avenir au Seigneur? Et il y a des risques, bien sûr qu'il y a des risques. Et Siméon ne le cache pas. Et toi, Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. Tu vas souffrir. Et le Seigneur a dit la même chose à Ananias concernant Paul, qui était encore Saul de Tarse. Le gars, il va souffrir. Tu veux servir Dieu? Eh bien, peut-être que tu vas souffrir. Est-ce que tu veux prendre ce risque-là? Pour Dieu? Pour l'humanité? Pour ton prochain? Je me rappelle, comme si c'était hier, d'un frère qui était avec nous et il me disait, tu vois Bernard, moi j'aimerais bien avoir la place de Joseph, qui était devenu premier ministre de Pharaon. Je veux bien, moi je dis, ah Seigneur, c'est cette place-là que je veux, mais sans les souffrances. Non, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Bien sûr qu'être au service de notre Père Céleste comporte une part de souffrance, mais, parce que ce ne serait pas juste que je vous encense en disant c'est tout beau, c'est tout rose, mais nous ne sommes bien qu'à partir du moment où nous sommes dans les plans que Dieu a pour nous. Et c'est là que nous sommes dans la paix. Et la souffrance et les difficultés ne peuvent pas, estomper la paix et la joie que nous avons de servir Dieu dans ce qu'il nous a demandé de vivre, même s'il y a une part de renoncement ou de souffrance. Marie, en se mettant à la disposition, ou en mettant à disposition de Dieu sa vie, a été bénédiction pour Dieu, bénédiction pour les hommes. Et là, ce que le Seigneur nous propose à nous aujourd'hui, c'est que nous soyons bénédiction pour le ciel et pour la terre. Sur la terre, dans notre église, dans notre entourage, dans notre milieu de travail, dans notre ville, dans notre département, dans notre pays. Marie a participé à l'avancée du royaume de Dieu, incontestablement. Il y a ce texte de Romains, chapitre 12. « Je vous demande donc, frères et sœurs, du fait de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, à savoir que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, et qui plaisent à Dieu. » C'est pas de la théorie, c'est pas de la théologie, c'est de la pratique. Je demande à ce que vous puissiez vous mettre. Cette semaine, j'ai repensé à quand nous étions à Lille avec Daniel, on avait ouvert un bar sans alcool pour accueillir les personnes qui était en recherche de Dieu, et je me rappelle toujours de ce gars qui s'appelle Christian et qui était chrétien et qui est venu me voir dans ce bar en disant « J'en ai un peu marre, je vous vois servir Dieu et être efficace pour Dieu, moi je suis empêtré dans mes études de médecine, donc Bernard je veux arrêter la médecine. » Et je lui ai dit « Écoute, Je t'interdis d'arrêter. Tu as les facultés pour pouvoir continuer tes études et pour devenir médecin. » C'est rare, très rare, lorsque je suis aussi affirmatif que ça. Je t'interdis. Mais il est à Lille considéré comme le médecin des pauvres. Il est dans une cité difficile, compliquée, et parfois il ausculte gratuitement parce que les gens ne peuvent pas payer. Mais là, il est dans son élément, là, il est dans son appel. Il a donné à Dieu toutes ses facultés, pas pour évangéliser comme nous le faisions au café-bar, mais d'une autre manière. Tu as tes facultés pour aller jusqu'au bout de tes études, alors vas-y. Et que le Seigneur se serve de tes facultés intellectuelles, parce qu'il va se servir de cela dans l'avenir. Des fois, on se pose des questions hein, quand on est étudiant. Est-ce que je continue? Je continue pas. Notre fils Étienne, après son bac, se demandait d'ailleurs. Papa, est-ce que je vais faire de la théologie pour devenir pasteur? Est-ce que je vais faire de la botanique parce que j'aime bien les plantes? Est-ce que je m'engage dans la musique parce que j'aime bien la musique? Est-ce que je m'engage dans l'informatique? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il a répondu, la biologie, ça m'intéresse. Et ben, vas-y. Je ne vais pas te dire d'être pasteur parce que il me faut une descendance de pasteur. Et donc, il a fait biologie et il est sorti avec un doctorat de biologie fondamentale et cellulaire. Et aujourd'hui, il y a déjà quelque temps, il a mis au point un système qu'on lui a demandé, qui perdure, pour qu'il soit plus facile de séquencer l'ADN. Un chercheur. Il avait trouvé aussi comment bloquer la prolifération des cellules du cancer du sein. Mais là, effectivement, Étienne, tu as les facultés. Il a fait ce que le Seigneur mettait à cœur et il est aujourd'hui une bénédiction, non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans le domaine de la santé et social. Et c'est pas rien, quoi. En fait, je vais conclure. Donne-toi. C'est en même temps très simple et en même temps très compliqué. Donne-toi entièrement au Seigneur et lui s'occupe du reste. C'est court, hein? Donne-toi entièrement au Seigneur, corps, âme, esprit, faculté, etc. Donne-toi entièrement et lui, alors, il s'occupe du reste. Vénérer Marie ou la prier, c'est un grand nom. Suivre son exemple d'abnégation, d'espérance, de foi, de simplicité et d'humilité, c'est un grand oui. Et l'ange a attendu que Marie lui donne réponse. Et toi, quelle est ta réponse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu aujourd'hui? Je pourrais te laisser tranquille, partir aller manger et festoyer ce dimanche, mais je n'ai pas envie de le faire sans te poser la question. Est-ce que toi, tu vas te rendre disponible entre les mains du Seigneur, comme Marie l'a été? Ce n'est pas une obligation, c'est une proposition du Seigneur pour toi. Est-ce que tu vas me suivre dans les projets que moi j'ai pour ta vie et pour la manière dont je vais te conduire et te diriger? Est-ce que tu es prêt à accepter une part d'incompréhension, de souffrance, de choses où tu ne sauras pas que penser, mais rien ne m'est impossible, dit Dieu, c'est moi qui est à la manœuvre. Si tu me donnes le gouvernail de ta vie, alors je sais où te conduire, comment te conduire, et comment faire de toi une bénédiction qui soit une bénédiction sur la terre, mais qui soit aussi une bénédiction dans le ciel. Donc, si c'est quelque chose qui touche ta vie, Eh bien, tu te lèves. Si tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, mes facultés, mon corps, je veux faire ce que tu veux faire, tu te lèves. Voilà, puis on va prier. Ce n'est pas une obligation, ne vous levez pas si vous n'avez pas envie. Et je dirais que Marie était une toute jeune femme et que Élisabeth était une toute vieille femme. Et que le Seigneur a utilisé l'une comme l'autre, il n'y a pas d'âge pour le servir. Seigneur, en tant que disciples, nous sommes là devant toi. Et nous avons envie juste de te dire, Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons te servir, nous souhaitons être associés à toi. Nous désirons que, comme Marie, comme Paul, comme Gédéon, comme bien d'autres, le projet que tu as pour que nous soyons bénédiction ici sur terre et dans le ciel puisse être effectif. Rien ne t'est impossible. Et là même où nous avons la trouille, où nous avons des craintes, où nous avons des questionnements, nous voulons surtout avoir confiance en toi. En disant et en te disant, Seigneur, j'ai la trouille, Seigneur, je trouve que c'est long, mais je veux te servir, je veux être associé à toi, associé à tes projets. Et nous sommes persuadés que même là où ça risque d'être compliqué, toi, tu vas continuer à nous accorder ta paix et ta joie parce que nous serons dans le plan que toi-même, tu as mis sur notre route pour que nous puissions te servir. En tout cas, nous sommes certains de ton amour indéfectible pour nous et nous te remercions pour l'honneur que tu nous fais d'être associés à toi. Seigneur, nous te donnons nos cœurs, nos facultés, notre notoriété, nos incapacités, afin d'être partenaires avec toi dans ton royaume. Amen.